pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Aujourd'hui, il sera question de sabotage, de l'histoire du sabotage plus exactement, à l'occasion d'une présentation de livres à la bibliothèque associative de Malakoff le 20 avril dernier. Victor Cachard y présentait son premier ouvrage sur le sujet, intitulé « Histoire du sabotage » aux éditions Libre. Un second volume est prévu normalement pour novembre 2024. Vous entendrez ici surtout une conception anarchiste de la pratique, à travers principalement les écrits de Émile Pouget. Outre une histoire du concept, vous entendrez également des discussions, des réflexions des personnes présentes sur leur vision et leur pratique du sabotage.
Peut-être en deux mots, je vais me présenter. Donc bon, je viens pas forcément de très très loin. Je viens de Haute-Loire. Avant, j'étais à Lyon où j'ai fait mes études donc de philosophie. J'ai une formation de philosophe. Et ensuite, j'ai un éditeur, les Éditions Libres, qui m'a proposé de travailler sur le sabotage, sur l'histoire du sabotage. Et j'ai réfléchi un petit peu. J'ai dit alors, je sais pas ce que je vais si je vais donner mon accord. Et puis en réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait possibilité de problématiser un petit peu, d'un point de vue philosophique, la question de l'action, la pratique du sabotage, en essayant de mettre à l'épreuve la définition du sabotage pour essayer de savoir quand est-ce qu'une action relève du sabotage et quand est-ce qu'elle n'en relève pas. Quel est le critère de discrimination, le critère qui permet de séparer une action de type destructrice, par exemple, d'une action beaucoup plus passive. Qu'est-ce qui permet de distinguer et de dire si, oui ou non, elle relève du sabotage. Et donc, au départ, voilà, c'était le premier prisme. C'est comme ça que j'ai abordé la question du sabotage. Et puis après, il y a tout le travail d'histoire pour essayer d'identifier depuis quand parle-t-on de sabotage? Quel est le moment où le sabotage est devenu, a été théorisé comme une pratique révolutionnaire au service de l'émancipation des travailleurs soumis à l'injonction capitaliste. Donc, je viens pour parler de ça. Le premier tome, qui est donc celui-ci, qui couvre, grosso modo, la période fin du 19e siècle, 1880, on va dire, enfin, 1870, à la commune de Paris, jusqu'à la déclaration de la Première Guerre mondiale, qui est vraiment l'époque charnière pendant laquelle s'est constitué le sabotage comme pratique révolutionnaire à travers la figure de Émile Pouget, donc voici, qui était il y avait plusieurs casquettes à l'époque, mais il était travailleur à Paris, il a travaillé dans les grands magasins où il a été exploité avec des journées hebdomadaires de travail où il n'y avait même pas de repos dominical, on lui faisait manger de la nourriture avariée, notamment par la famille Cognac-G. Il y a aujourd'hui à Paris, vous avez le musée Cognac-G, qui en fait c'était donc les descendants de... Il faisait partie de la même entreprise que... Il y avait le même type de magasin que le Grand Marché ou d'Alfred Boucicaut, etc. C'était la naissance des premiers grands commerces. Donc Émile Pouget travaillait là-dedans, il était complètement exploité. Et puis petit à petit, il a commencé à côtoyer le milieu anarchiste parisien, à se syndicaliser, à lancer lui-même des syndicats. Et puis il adorait écrire. À l'époque, il côtoyait aussi l'avant-garde artistique, Félix Fénéon par exemple, ou d'autres artistes qui étaient révolutionnaires. Donc il écrivait, il a lancé un journal qui s'appelait Le Père Pénard. C'est d'ailleurs lui qui a vulgarisé le terme peinard, être peinard, tranquille, voilà. Et c'est lui qui a, le premier, introduit le terme sabotage en France et qui l'a élevé en pratique révolutionnaire. Donc voilà, donc c'est pour ça que la période du premier livre est très courte et que ça donne pour autant naissance à quelque chose d'assez dense, quoi. Et donc la deuxième période, qui donc est, comment dire, l'exportation du sabotage ou la modification, l'extension du sabotage à d'autres domaines de lutte, c'est le deuxième tome, et donc je peux en parler un petit peu, mais il n'est pas publié, et puis ça traîne, mais il couvre, pour vous faire en deux mots le propos, il couvre la période donc de la fin de la Première Guerre mondiale, à savoir 1920-1921, moment de la scission au sein de la CGT entre la CGTU et la CGTSR, donc la CGTU c'est la CGT unitaire, et donc au nom du développement de l'outil de production, le sabotage est complètement mis à l'écart, et l'opinion qui défend le sabotage est mise en minorité. Et donc en 1920 éclate une controverse qui divise la CGT, CGTU d'un côté, et les minoritaires qui défendent encore le sabotage, c'est la CGTSR pour syndicalisme révolutionnaire. Et donc le deuxième tome partira de là jusqu'à aujourd'hui. Pour autant, ce que j'essaye de faire, c'est de repérer les moments charnières, les moments de, les étapes qui font que le sabotage, il change de sens. Donc oui, là c'est une définition qui est très liée à la technologie, donc les hackers, voilà, les nouveaux systèmes d'information, et puis à la communication. Donc la communication, le transport, les flux de transport, marchandises, etc. Et ça c'est effectivement, par exemple, le sabotage qu'il y a eu du Nord Stream, je crois, dans le cadre de la guerre du conflit russo-ukrainien, bah voilà, c'est un système de transport de ressources pétrolières, énergétiques. Pareil, saboter un pipeline de Andreas Malm, c'est on va saboter une structure qui sert une infrastructure énergétique. Donc c'est très souvent lié à l'énergie. Et en fait, ça, ça n'a strictement... C'est marrant parce que c'est l'idée qui est répandue aujourd'hui, et donc une idée destructrice, où on va attaquer un système technologique, et c'est une définition qui ne correspond pas à la définition originaire qui a été théorisée par Émile Pouget et par le syndicalisme révolutionnaire quand le mot est apparu au début du XXe. C'est pas du tout ça en fait. C'est pas une destruction liée à des voies de communication ou quoi. C'est dans un second temps, et notamment dans le cadre des guerres impérialistes, que le sabotage est réinterprété comme un acte de guerre. Quoique, il a un statut d'un point de vue du droit international de guerre très ambivalent, puisque le sabotage, par définition, est un acte interdit dans le droit de guerre.
C'est que moi, mon rapport à ce qu'est le sabotage, il est beaucoup plus, genre dans des actes beaucoup plus minimes du quotidien. Ça va être comment dans le rapport de production salariale, on bousille en fait la production qu'on est censé donner au patron, quoi. Et ça va être. Comment prendre plus de pause clope pour... Enfin, non mais moi ça se passe beaucoup par la pause clope, quoi. C'est combien de temps je prends à ma pause clope, comment je fais pour badger et puis ressortir vite pour... Enfin, et c'est, pour moi c'est des plus petits actes du quotidien de comment on fait pour bousiller, ouais, le système tel qu'il est avec nos petits moyens, enfin... Voilà.
Les premiers actes de sabotage, au moment de, comment dire, c'est lorsque les machines ont commencé à détruire des emplois, les ouvriers cassaient les machines pour les rendre inopérantes. Pour moi, saboter aujourd'hui, c'est déjà, enfin, c'est pratiquer la gratuité dans le métro. Moi, c'est un truc que je fais régulièrement. C'est pas que j'ai pas les moyens de m'acheter une carte Navigo. J'en ai une, mais c'est le plaisir de, comment dire, c'est le plaisir d'entuber la RATP, tout simplement. C'est ça, du sabotage. Ça peut être ça. Enfin, c'est des choses très, très simples. C'est faire chier, quoi. C'est faire chier partout où on peut.
C'est une notion qui est aussi évolutive dans le temps. Je veux dire, c'est la notion de sabotage à l'époque de Pouget, c'est pas forcément la même. Elle est plus à l'intérieur de l'entreprise, de la part des salariés, qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, elle est plus large, même si le sabotage à l'intérieur de l'entreprise, il existe toujours. Il est peut-être moins visible que là, ces derniers temps, début mars, je crois que c'était, il y avait un exemple de sabotage aussi, c'était l'usine Tesla à côté de Berlin, là où voilà, c'était revendiqué comme un acte de sabotage. Mais ça n'a pas le, enfin, je pense de mon point de vue, ça n'a pas le même sens que ça pouvait avoir au début du XXe siècle. Tesla, c'est une usine de voitures électriques. Je crois que c'est la plus grosse du groupe Tesla. Je crois que c'est un pylône qui a été incendié, mais volontairement, et qui a bloqué la production. Plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros perdus, d'après les médias.
L'origine de sabotage, est-ce que quelque part ça vient bien de sabots qui faisaient que certains jetaient les sabots dans leur machine-outil pour les abîmer? Et donc pour moi, c'était forcément un sabotage, c'était forcément de la destruction matérielle. C'est depuis peu que je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait saboter en étant passif quelque part. On sabote un peu le fonctionnement de quelque chose. Mais au départ, j'étais certain que ce n'était qu'associé à de la casse du matériel pour arrêter le fonctionnement d'une entreprise, d'une politique, d'un pays, d'un mouvement. Est-ce que c'est bien sabotage, l'origine, sabot, ou est-ce que c'est une histoire, un conte auquel je crois et qui n'est pas du tout réaliste?
Si tu le dis, c'est que tu l'as entendu, sous forme de conte peut-être. Et du coup, effectivement, à partir du moment où c'est répandu et qu'on a cet imaginaire du sabot, bah, ça a son efficacité. C'est vrai que le sabot dans une machine, ça parle, quoi. Mais c'est un imaginaire qui ne correspond pas à la réalité, à la fois étymologique du terme et la pratique dont parle Pouget. Ça n'a rien à voir avec la chaussure en bois jetée dans la machine. Mais pourquoi on en est venu à parler de ça? C'est parce que les syndicalistes révolutionnaires, donc les Industrial Workers World, donc IW, les Wobbly, quoi, aux États-Unis, ont confondu la polysémie du mot sabot et ont pris le sabot pour la chaussure en bois. Et c'est à partir de là, notamment dans une économie fortement industrialisée, que s'est répandue cette idée du sabot qui va bloquer l'engrenage des machines. Mais pour les Français, en tout cas, donc ça c'est dès les années 1920, donc c'est un peu après, enfin ça commence en 1516, mais peu importe. Mais pour Pouget, quand il en parle pour la première fois en 1896-1897 dans La Sociale et Le Père Pénard, qui sont deux journaux anarchistes à l'origine, ça n'a rien à voir avec le sabot en bois. Et donc, pour faire en quelques phrases l'origine, en fait, à la fin du 19e siècle, le sabot est un terme qui est issu de l'argot, donc du parler populaire des bas-fonds parisiens, qui est utilisé par la pègre, quoi, par les crèves-la-faim. En tout cas, je parle comme parle Émile Pouget quand il parle, hein, parce qu'il utilise énormément le langage argotique et cette langue fleurie, la langue verte, de ceux qui essayent de ne pas être compris par les classes supérieures en parlant un autre langage. Et donc, ça vient... voilà la provenance, le sabot, ça vient de l'argot. Et ça désigne en fait le mauvais travailleur. C'est-à-dire que quand on disait « ouais, ben, t'es qu'un sabot », ça voulait dire « t'es vraiment un tir au flanc, un train de sabbate ». C'est vraiment déjà, d'emblée, dès la fin du 19e, un terme qui signifie le mauvais travailleur. Et d'ailleurs, on retrouve ça sous la plume des frères Bonnef. Vous savez, les frères Bonnef, c'est des naturalistes, enfin des écrivains naturalistes au sens de Zola. C'est-à-dire qu'ils aimaient bien décrire les environnements de travail des gens, mais d'une manière très réaliste. Et donc, les frères Bonnef, eux, se sont intéressés aux travailleurs et à toutes les corporations différentes de travailleurs. Et... les frères Bonnef en parlent à la fin du 19e et on retrouve ça sous la plume d'autres écrivains, et ça désigne le dormeur. C'est-à-dire, il s'est étalé comme un sabot, pour dire il s'est étalé comme un dormeur. En fait, ça désigne celui qui dort. Par exemple, François Villon, donc déjà dès la fin du 16e siècle, utilise le terme sabot dans un poème qui s'appelle La balade de la grosse Margot. Et dedans, il dit elle dort comme un sabot. Sous-entendu, elle dort en fait. Et maintenant, si on s'intéresse à pourquoi, encore, qu'on fait encore la généalogie un peu plus ancienne de pourquoi est-ce qu'on parle du dormeur comme d'un sabot, Par rapport à la toupie. En fait, dès le Xe siècle, on a le terme « sabot » dans l'ancien français qui désigne le jeu de la toupie, tout simplement que les enfants utilisent. Donc ça, on appelle ça le jeu du sabot. Et par une espèce d'usage linguistique, de métaphore en usage, enfin par métaphore quoi, le terme « la toupie » est devenu la métaphore du dormeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on joue à la toupie, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs utilisé par les enfants, c'est parce qu'il y a c'est un objet curieux qui, quand il est en activité, c'est-à-dire alors qu'il est en plein travail, eh ben, on a l'impression de l'immobilité, c'est-à-dire on a l'impression que la toupie est à l'arrêt. En mécanique giratoire, même, ça porte un nom, c'est quand la toupie se stabilise, qu'elle est lancée, qu'elle se met à plus bouger comme ça, cet effet d'illusion d'optique, ben, on appelle ça en physique le point de dormance. Et donc la toupie, elle simule l'immobilité en étant au travail, en étant en activité. Et toute la substance du saboteur après utilisé par Pouget dans le monde du travail, c'est de simuler le repos ou l'incompétence ou la post-clope, de l'allonger, de simuler qu'on est au travail alors qu'on n'y est pas. Vous voyez, c'est cette ambivalence permanente entre dissimulation et simulation. C'est-à-dire il faut dissimuler qu'on ne travaille pas, mais il faut simuler qu'on travaille. Et donc, et c'est pour ça que le terme a une ambiguïté dans le droit de guerre, parce que exporté dans le cadre d'un conflit, le saboteur, c'est celui qui trouble la différence entre ami et ennemi. C'est-à-dire que il ne porte pas l'uniforme. C'est pour ça que, par exemple, on va parler de sabotage pendant la Deuxième Guerre mondiale par les résistants. Pourquoi ? Parce que les résistants ne font pas partie d'une armée régulière qui porte l'uniforme, qui sont donc clairement identifiables. Non, ils font partie d'une armée irrégulière, asymétrique, et donc ce sont des civils, ce sont des partisans, voilà, qui troublent la frontière entre amis et ennemis. Et à partir du moment où on n'arrive plus à distinguer l'ami de l'ennemi, eh bien, on crée cette ambivalence qui fait que tout le monde est potentiellement un ennemi ou un ami. Et c'est ça le sabotage dans le droit de guerre. Raison pour laquelle il est interdit dans le droit de guerre. Et un pays, d'ailleurs, ne le revendiquera jamais. Donc voilà, pour l'origine, donc ça vient de pas de la chaussure en bois, qui est une déformation de la réception par le syndicalisme américain, mais d'un terme argotique français qui désigne le mauvais travailleur. Maintenant, Pouget, en fait, ce qu'il a fait, son geste, c'est pas d'inventer un mot, puisqu'il existe. C'est pas d'inventer non plus une pratique, parce que tout le monde, quand dans le cadre du capitalisme, il y a toujours des tirs au flanc, il y a toujours une espèce de maladresse au travail pour ralentir la production. En fait, Pouget, donc c'est un anarchiste à la base, donc les lois scélérates tombent à la fin du 19e. Pouget, jeune anarchiste, est contraint et poussé à l'exil, il part à Londres et il découvre le trade unionisme, donc les syndicalistes anglais. Et en tant qu'anarchiste, pour lui, c'est un grand moment de remise en question de l'action politique. Il se dit, mais finalement, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a comme moyen de lutte ? C'est les anarchistes avec la reprise individuelle, donc le vol, des actions très individuelles. Les poseurs de bombes, donc la propagande par le fait, la propagande par le fait qui n'était pas limitée aux poseurs de bombes. Il y avait d'autres pratiques, ne serait-ce que le faux monnayage, tout ce qui relève du banditisme révolutionnaire et de toutes les techniques qui essayent de passer sous les radars de l'État pour créer des zones d'autonomie où un collectif puisse se créer et prendre le pas sur l'État. Bref. Et donc, Pouget, il se dit, les anarchistes, ils sont isolés de la classe ouvrière. Les grèves, elles fonctionnent pas parce qu'il y a les briseurs de grève, il y a l'armée qui tire à balles réelles sur les manifestants. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne mène pas la lutte au cœur du monde du travail. C'est-à-dire que la grève, c'est une cessation de l'activité de travail. Donc on sort du monde du travail. Et donc ça il se dit, mais on peut pas lutter contre le travail à l'extérieur du travail. Il faut être à l'intérieur du travail. Il faut trouver une solution pour porter préjudice à l'activité économique en ayant les deux pieds dans l'activité productive. Et donc il est en Angleterre et là, il y a une petite anecdote, il y a une grève à Glasgow, des dockers, donc ils sortent de la sphère productive, ils se mettent en grève et très rapidement, pour des conditions de travail qui étaient mauvaises et très mal payées, très rapidement, le patronat appelle des briseurs de grève, donc des gens qui n'ont pas de travail, des chômeurs, des gens qui sont dans une situation encore plus précaire que ceux qui travaillent et sont mal payés, venez pour travailler, pour pallier au problème de manque de main-d'œuvre. Les briseurs de grève se mettent à remplacer les ouvriers professionnels. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comme ils ne sont pas compétents pour être dockers, ils travaillent mal. tout le travail prend beaucoup plus de temps déjà. Il y a beaucoup plus de temps pour porter les sacs d'un bateau pour décharger sur les quais. Ils tombent à l'eau et ils savent pas nager, ils se noient. Ils font tomber des sacs de marchandises à l'eau, etc. Donc en fait, ils travaillent mal. Et ça devient une technique syndicaliste de mal travailler. En Angleterre, ils appellent ça le gokani. Alors Pouget, qui parle pas très bien anglais, il entend voilà le gokani. Alors gokani, ça veut dire vas-y mollo. En fait, c'est du cani, c'est du patois gaélique qu'on peut traduire par go slow, vas-y doucement, vas-y mollo quoi. Et donc en fait, dès que quelqu'un travaille un peu trop, on dit oh ralenti, tu travailles pas pour toi en fait là. Donc ne donne pas toute ta vie et ton énergie à la production de marchandises qui ne te reviennent pas et qui ne satisfait même pas tes propres besoins. Donc vas-y mollo quoi. Et Pouget, en fait, son geste principal, c'est de traduire le gokani par, il dit, mais en français on a un terme pour désigner celui qui traîne les pieds, il dit c'est le sabot qui vient du patois. Et sur le modèle du terme boycottage, qui vient aussi d'Angleterre avec un lord, monsieur Boycott, qui était un lord particulièrement atrabilaire avec ses ouvriers, enfin il ne mettait même pas ses ouvriers, il louait ses terres et il demandait des sommes astronomiques, et ceux qui cultivaient les champs ont dit bah, on va boycotter monsieur Boycott, c'est comme ça que le terme est apparu, et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont laissé pourrir les récoltes sur place, donc tout a pourri, et ils ont dit bah, on ne va pas vous louer un terrain dont on n'a pas pu tirer les fruits, quoi, parce que voilà, bon, bref, et donc en français, c'est devenu boycottage avec deux T, et sabotage, c'est construit de la même façon, avec deux T. C'est-à-dire que sabotage s'écrit à l'origine avec deux T. Voilà. Toujours est-il que voilà, ça vient donc, le geste de Pouget, ça a été de traduire gokani, qui était utilisé par les syndicalistes, par sabotage élevé en tactique révolutionnaire. Ensuite, c'est effectivement un acte individuel, et ça, c'est une très bonne question, parce que Pouget a construit, a pensé le sabotage comme une réponse aux impasses des actions individuelles. C'est-à-dire que les anarchistes étaient trop individualistes, et donc il s'est dit quelle est la façon de rallier la classe ouvrière à la cause révolutionnaire, et il s'est dit en pratiquant l'action anarchiste au cœur du monde du travail. C'est-à-dire, il s'agit pas d'être un aventurier solitaire qui va poser une bombe et donc qui est retiré du monde du travail et qui vit de brigandage et de vol. Non, il faut aller dans les usines, travailler, mais à l'intérieur, travailler mal et même faire de la contrefaçon dans l'usine, etc. Détourner l'outil de production. Pour lui, c'est une manière de répondre aux impasses de l'action trop individuelle. Et pour autant, on pourrait me dire, oui, mais l'action individuelle de celui qui va doucement, c'est une action qui n'est pas collective. Enfin, on sabote individuellement. À partir de quand ça devient collectif? Et là, c'est là qu'intervient l'idée. Alors déjà, on pourrait répondre, mais on a tous une tendance, et toute une tendance naturelle à la paresse, et quand on se rend bien compte qu'on est exploité, il y a une espèce de contagion vers la mollesse. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Lola Lafond dans son premier bouquin, une fièvre impossible à négocier, ou je sais plus quoi, où elle dit qu'elle pratique une opération escargot dans un McDo, elle commence à rien faire, et petit à petit, c'est contagieux. Tout le monde se met à se dire, pourquoi on travaille autant, pourquoi on se donne à tout prix au système comme ça. Et donc nécessairement ça devient collectif parce que l'action appelle l'action, ou la non-action appelle également la non-action. Il y a une espèce d'effet de contagion. Et ensuite, la deuxième réponse, c'est de dire saboter, c'est moduler son propre travail, donc jouer sur la diminution quantitative et qualitative du travail, je travaille moins ou je travaille mal. Mais c'est aussi pas seulement moduler son travail, mais à partir du moment où une machine fait le travail à notre place, c'est aussi contraindre la machine à moduler son propre travail. Et comment? En attaquant la machine. C'est là la subtilité qui rejoint cette idée du grain de sable, de dire faire des petites actions. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas de détruire la machine en l'envoyant paître comme ça, dans sa globalité, dans un grand tonnerre de fracas. Non, il faut intervenir sur la machine de manière à ce qu'elle se mette en panne, qu'elle soit neutralisée, mais d'une manière que ça soit impossible à réparer. En tout cas, que ça ne se voit pas que ça soit une action humaine, que ça donne l'impression que la machine soit tombée en panne toute seule, en fait. Et pourquoi? Parce que derrière, l'idée, c'est de revaloriser le travail ouvrier, de dire, en fait, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui connaissent la machine, c'est ceux qui travaillent dessus. Et donc, à partir du moment où on revalorise le travail des ouvriers, eh bien, on peut dire on sabote la machine, mais d'une manière qu'il faut qu'on connaisse la machine, en fait. C'est-à-dire, on va mettre un grain de sable dans l'endroit névralgique où on sait que ça va la neutraliser. Et au moins, quand on viendra nous dire comment la réparer, ben on pourra engager un rapport de force pour dire, mais en fait, il n'y en a qu'un qui peut la réparer, c'est moi, parce que c'est moi qui l'ai mis en panne. Enfin, on ne dit pas on l'a mis en panne. Justement, il y a aussi l'idée du secret. Beaucoup cette idée de, on ne dit pas quelle est notre revendication, quels sont nos moyens d'action pour pouvoir peser dans le rapport de force. Et ça, par exemple, c'est Henri Fortuné, aussi un anarchiste, qui dit à un moment dans une petite brochure qui s'appelle Sabotage, je ne sais quoi, bref, il dit oui, donc vous avez votre patron qui vient vous voir et il vous dit mais pourquoi vous avez arrêté à travailler, puis l'ouvrier répond je ne sais pas, mais vous voulez qu'on vous augmente? Non, rien à déclarer. Donc aucune revendication. Et ça, c'est très lié aussi au sabotage, de ne pas revendiquer, de ne pas avoir de revendication. D'une part, pour éviter l'instrumentalisation, parce que dès qu'on a une revendication, derrière, il y a des représentants qui disent, moi, je vais vous porter, je vais être le porte-parole pour vos revendications. Donc déjà, il faut saboter la revendication. Et pour ça, dire, non, je sais pas. Et à la fin, une fois qu'on a fait monter la pression et que le rapport de force est complètement du côté des exploités, eh bien là, on dit, effectivement, la machine, c'est moi qui la maîtrise, et maintenant, tu peux sortir. C'est toi qui es licencié au patron.
Voilà. Mais il y a quand même une question, un rapport entre le patron et l'ouvrier. Par exemple, j'ai un peu le souvenir d'une grève dans une grande entreprise. Et du coup, c'était la question, cette entreprise avait fermé, c'est une entreprise automobile. Hein, c'était dans les années, je pense, 2000, un peu, 2002, entre 2000 et 2010. C'était PSA. Et la question s'était posée aussi à un moment, c'est-à-dire, est-ce que effectivement on va être licencié, est-ce que on sabote, voilà, la machine, on enlève pièce, bon, c'est pas trop, ou comme finalement, c'est un peu sacré, c'est un peu de saboter une machine, surtout d'ailleurs pour les syndicats, puisque c'est quelque chose, c'est là qu'on voit qu'on a un peu changé de paradigme, puisque aujourd'hui, c'est presque, comment dire, de saboter une machine, c'est sacrilège, quoi. Comment, du coup, on est arrivé à ce côté, effectivement, où, les organisations syndicales se posent un petit peu, disent on peut le faire, et à un moment où ils disent ah non, sacrilège, c'est pas possible.
Dès le départ, avant l'apparition du communisme, en tout cas sa diffusion, le syndicalisme ne considérait pas la machine comme une entité sacrée. Il n'y avait pas de sacralisation de la machine. C'est principalement l'influence du communisme qui a sacralisé l'outil de production. Parce que l'outil de production, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est le rapport social. Et donc, à partir du moment où le problème, c'est un problème non pas matériel, mais disons de domination idéologique, de domination même juridique, dans le cadre du contrat de travail, entre le salarié, le subalterne et son patron qui est propriétaire de l'outil de production, et à partir du moment où le problème c'est la propriété de l'outil de production, ça n'est donc pas à la machine d'un point de vue physique qu'il faut s'y attaquer. Et donc c'est à partir de là que l'outil de production a été beaucoup plus sacralisé. Pour dire en fait vous vous trompez de lutte. Vous y attaquez pas les bons ennemis. Et l'idée derrière de Pouget, c'est de dire en fait que l'outil de production est inséparable du rapport social de domination, parce que l'outil est pensé lui-même, l'outil est conçu lui-même pour l'exploitation. C'est cette idée.
Que toi, tu parles beaucoup de technologie. Tu dis que c'est pas juste de l'anti-technologie en parlant notamment des luttes du courant ludite, que la technologie elle est au service du patron. Là, nous, on utilise la technologie de tous les jours, ça peut être à nos services. Mais si c'est un outil, en effet, d'exploitation, là, en effet, c'est politique de s'en prendre au matériel. Et je sais que tu parles un peu de Marx, et je sais plus qui critiquait les ludites. Oui, Marx qui dit que en fait, c'est des ouvriers qui n'ont pas la conscience de classe ou quelque chose comme ça, et qui font ça de façon un peu inconsciente quand ils s'en prennent aux outils de production technologique.
Voilà. Oui, chez Marx, il y a un petit passage dans le dans le Capital où il parle du mouvement ludite, donc qui étaient des tisseurs, des tisserands qui se sont fait supprimer leur outil de production et donc qui allaient dans des manufactures de fabriques de tissus et donc ils se sont fait spolier de leurs propres outils dont ils possédaient les appareils quoi pour produire tout ça dans des grandes fabriques. Et c'est à part qu'il y a eu un mouvement contestataire où ils ont brisé énormément de métiers à tisser. Et Marx dit, mais en fait, ils n'ont rien compris. Il fallait pas s'en prendre à l'outil, il fallait s'en prendre aux propriétaires eux-mêmes. Enfin, en tout cas, à la logique d'appropriation et d'accumulation de richesses qui est permise par le capital. Et dans les années, plus tard, Thompson, l'historien, a voulu contrecarrer cette idée que les ludites étaient des gens qui étaient inconscients de leur exploitation. Donc il a dit, en réalité, Marx se trompe, il focalise son attention sur la destruction de biens matériels, donc la destruction de métiers à tisser, mais en faisant ça, il passe sous silence toutes les autres actions qu'il y avait des ludites, qu'il y avait autour de cette contestation et qui ne se limitait pas à de la casse matérielle et qui témoigne d'une certaine conscience d'exploitation. Donc c'est par exemple des lettres anonymes qui étaient envoyées sous le nom signé Lude, qui est un personnage imaginaire comme Robin des Bois, qui est un personnage inventé de toutes pièces. Ned Lude, c'est en fait l'anonyme qui va menacer les grands propriétaires de fabriques. Et donc Thompson, son but, c'est de dire Marx se trompe en caricaturant les ludites en disant que ce sont des énervés qui cassent tout. C'est pas que des énervés qui cassent tout, c'est aussi des gens qui se réunissaient, qui discutaient d'exploitation, qui complotaient, qui conspiraient contre le patronat à cette époque-là. Le sabotage est pratiqué aussi dans le monde informatique. Il y a des activistes avec un H majuscule qui créent des systèmes pour ralentir les opérations bancaires contre, par exemple, le trading à haute fréquence. Il y a des gens qui fabriquent des programmes de ralentissement, de transfert des données. Donc, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mais c'est vrai qu'il y a une sécurité informatique qui se développe et qui est de plus en plus contraignante sur la liberté d'action des militants par Internet. Mais dans l'idée du sabotage, il y a aussi l'idée d'avoir un coup d'avance. Je veux dire par là, d'opérer sur une structure, enfin j'en sais rien, d'opérer contre un système informatique avant que l'État s'en soit emparé pour le protéger. Il y a l'idée de détecter des zones de vulnérabilité. Un peu comme dans une machine qu'on va saboter, on va pas tout casser d'un coup, on va trouver l'endroit sensible, faible, vulnérable, sur lequel on va pouvoir intervenir pour neutraliser la machine. Bah, c'est pareil dans l'idée de saboter les nouvelles technologies, par exemple. Dans les nouvelles technologies, il y a encore des zones non couvertes par la sécurité. Et il y a tout un travail, en somme, de renseignement à faire pour connaître quels sont les moyens d'action qu'on va pouvoir déployer contre, je sais pas, les terminaux bancaires ou quoi, ou les serveurs, les clouds.
La vieille terre, c'était plus tenable. Et nous voilà sur cette planète, on arrive tout juste. On s'est envolé sans peine à travers l'espace. Il a suffi d'ouvrir les mains et de tout lâcher. Les grands maîtres de la terre menaçaient en vain. Car on peut tout interdire sauf d'ouvrir les mains. cette planète y a pas de frontières, on n'en a pas vu. Sur cette planète y a pas la guerre, on vient d'arriver. On a trouvé des champs déserts et des villes vides. On va s'installer paisible sans rien déranger. On va respirer l'air d'ici et on va marcher. Sur le sol d'ici et manger ce qui pousse autour. Des machines partout à ne pas trop toucher. C'est qu'on n'est pas vraiment chez nous, faudrait rien casser. Et puis on a à réfléchir, on est venu pour ça.
Continuons cette émission sur l'histoire du sabotage en présence de Victor Cachard qui intervenait à la bibliothèque associative de Malakoff pour présenter son ouvrage.
J'ai envie de faire un peu l'avocat du diable écoféministe en demandant si en se focalisant sur les machines, on se concentre pas sur le travail ouvrier masculin et aussi sur le travail qui peut être saboté parce que il n'est pas nécessaire à la reproduction de la vie. Et du coup, je pense à d'autres. Est-ce que tu intègres un peu, peut-être dans le deuxième tome, d'autres formes de sabotage aussi, typiquement au sein des services publics par exemple, où là, quand t'as face à toi des personnes âgées ou des enfants à éduquer, tu brises pas la machine. Et donc, comment tu le fais dans d'autres rapports, enfin, où là, c'est plus un rapport de défiance vis-à-vis de l'autorité ou de pas respecter les règles et les consignes, etc. Et aussi, enfin, comment ça peut se traduire dans des sphères où cette exploitation, elle est pas incarnée par la figure du patron, parce que c'est d'autres types de tâches de production. Et est-ce que ça se pense aussi dans les tâches domestiques, par exemple? Tu vois, je pense à ça parce que les premières militantes anarchistes, elles étaient institutrices. Enfin, après, du coup, on peut se demander si nos imprimantes qui fonctionnent pas, si c'est pas du forme de sabotage, s'il n'y a pas des collègues qui sabotent la machine. Comment ça se pense non plus dans un cadre où on sait clairement qui est le patron, etc. Mais tu vois, c'est toute la problématique même des grèves dans ces services-là, où en fait, les infirmières se mettent en grève et mettent en grève, mais continuent d'assurer les soins. Comment t'intègres ça dans cette analyse du sabotage?
Par rapport le rapport direct avec la machine. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre d'un rapport où l'outil productif il est devant soi, il n'y a pas de problème. Mais quand on est serveur-serveuse, quand on est, comme tu dis, voilà, tous les métiers du soin, à un moment, il dit, on peut saboter, pas forcément par défaut, mais par excès. C'est-à-dire, en fait, au lieu de servir dans un bar, de pas servir ou de ralentir, de travailler doucement, il dit, pour qu'il apporte préjudice au patronat, vous servez beaucoup trop. C'est la grève du zèle, en fait, par exemple. Donc, il dit, vous servez beaucoup trop, au moins, ça va coûter cher au patron, vous mettez 2 doigts au lieu de 3. La grève du zèle, c'est l'idée de faire son travail tellement minutieusement qu'on perd du temps par rapport aux exigences productives. Donc ça serait une réponse. Après, j'ai pas de solution toute faite. Ça reste à inventer aussi en fonction de chaque corps de métier. Et d'ailleurs, Bouger à un moment avait fait un appel en disant mais faites-nous remonter toutes les en fonction de vos situations, de vos métiers, faites-nous remonter toutes les astuces et on va faire un espèce de catalogue des ressources de sabotage. Bon, ça a jamais été fait parce que justement le sabotage doit rester discret pour parce que sinon, s'il est repéré, on peut licencier l'ouvrier facilement, quoi. Après, on se fait, voilà, on est la lanterne rouge de l'entreprise et une action de sabotage est repérée directement. Maintenant, par rapport à l'écoféminisme, effectivement, c'est dans le deuxième tome où l'extension de la pratique du sabotage fait que le sabotage n'est plus limité à l'outil productif, mais concerne des valeurs et donc même toute la sphère de la vie quotidienne. Et donc ça, c'est avec les situationnistes que ça arrive beaucoup après mai 68 et même pendant mai 68, où l'idée c'est de saboter les rapports, la publicité. Par exemple, tu parlais tout à l'heure d'affiches, de détournement d'affiches. Dès 1970, il y a déjà des collectifs qui détournent des affiches et ça, ça en fait partie et qui revendiquent le terme de sabotage. Et donc là, c'est une extension à un domaine non économique qui est un domaine, ou alors qui est un domaine du coup de la vie plutôt dans toutes ses dimensions, dans toute son épaisseur. Sauf si on pense que le capitalisme, c'est le capitalisme qui est rentré dans la vie quotidienne, ce qui fait que, en fait, quand on s'attaque à une publicité, ben, en fait, on s'attaque encore à de la production économique. Instagram, les influenceurs, c'est des travailleurs-travailleuses. Donc, si on considère que le capitalisme est allé à un tel point dans nos vies privées d'existence, même dans les rapports ménagers, par exemple, eh ben, dans ce cas-là, saboter, c'est encore saboter l'économie. Après, ça dépend l'extension de la définition. Mais disons qu'il y a eu des actions, et ne serait-ce par exemple les grèves du siècle, des choses comme ça, qui font partie du sabotage. Si on considère que, si on dit, par exemple, le corps de la femme est un appareil de reproduction, bah, un outil au service du capital pour reproduire l'économie. Eh bien, donc, s'il y a une grève des femmes, qui en plus de ça, mettre en place un mouvement collectif, bah effectivement on peut parler de sabotage parce que on s'attaque à l'outil de production. Mais il faut qu'on ait défini le corps de la femme comme un outil de production. Et c'est ce que veut nous faire, en tout cas c'est la définition que le capital en donne en essayant de rendre toutes les ressources humaines en les prenant pour des objets. D'ailleurs le terme ressources dit long sur le manque de considération pour la vie humaine. Ouais.
Moi, j'ai passé pas mal de temps à faire du ménage en maison de retraite. Et en fait, le rapport à... En fait, les gens, ils conscientisent pas ça comme du sabotage, mais c'est comment t'organises... Enfin, les tâches, elles sont organisées pour que tu sois vachement seul dans ton travail. En fait, t'as pas trop de rapport avec tes collègues, tu fais tes chambres toute seule, Enfin... Et c'est aussi comment... Bah, tu respectes pas les règles qu'on t'impose, parce que on se rendait compte que c'est des choses toutes bêtes, hein. Mais on se rendait compte que si on faisait les chambres à deux, plutôt que seul, bah, déjà, tu passes du temps à bavarder, tu crées du lien. Mais oui, mais en fait, tu passes du temps à bavarder, du coup, tes chambres aussi, elles sont faites deux fois plus rapidement. Alors, je comprends pas trop comment ça fonctionne, mais c'est le cas. Et, c'est là aussi où tu vas te retrouver, enfin, l'histoire des pauses clopes. Moi c'était ça en fait, c'était à la maison de retraite, comment sortir les poubelles, c'était, on avait besoin franchement, pour sortir 5 sacs poubelles, on sortait à 10, parce que en fait on avait les 3 clopeuses du groupe où on allait cloper, et toutes les collègues qui clopaient pas, mais bon qui s'asseyaient à côté des poubelles, et c'est comment en fait on te paye pour travailler dans le soin, mais en fait bah là... tu passes des heures à papoter avec tes collègues. Enfin, il y a plein de formes différentes et toutes ces histoires-là de comment tu modifies ta manière de travailler parce que ton chef il t'a dit qu'il faut aller faire comme ça parce que d'après lui c'est le plus rentable et que toi tu trouves tes petites techniques pour en fait pour pas faire comme il veut, qu'il s'en rende pas compte et pour prendre du temps pour toi tout en étant payé. Les histoires de badger, pareil en fait on avait une badgeuse qui était, si tu loupais 2 minutes, tu perdais 2 minutes de salaire. Par contre, si tu restais 10 minutes plus tard le soir pour faire un couchage, bah, t'avais pas 10 minutes de salaire en plus. Tous les jours où il y avait quelqu'un de retard, il avait oublié sa carte pour badger. Enfin, c'est des toutes petites choses comme ça où t'as 20 minutes pour manger le midi, bah, tu retournes badger au bout de tes 10 minutes, fin tes 20 minutes, et puis tu reprends pas le travail. Et en fait, tout le monde s'organise comme ça parce que la charge de travail, elle est pas gérable pour la quantité de soignants et de soignantes qu'il y a. Et donc, c'est comment on étend les moments, comment tu prends du temps pour juste te poser dans un fauteuil avec une personne âgée et papoter. Alors, dans les métiers de l'éducation, je sais pas.
On peut passer deux fois plus de temps à corriger les copies, à parler avec les élèves et tout. Mais en fait, ça embête qui? Enfin, parce que, tu vois.
Bah c'est que lui, s'il te crame, il considère qu'il t'a payé à rien foutre. Ouais. En l'occurrence, moi, si je calcule le nombre de temps que j'ai passé à être payé à fumer des clopes, bah, c'est... Ou alors, les yaourts. En fait, il y avait besoin de plus de yaourts que ce qu'il fallait dans le service. Parce qu'on bouffait des yaourts le midi, comme ça on n'avait pas besoin de ramener nos propres gamelles. Enfin, c'est des toutes petites choses, mais voilà, ils ont augmenté le budget yaourt parce que les personnes âgées aimaient vraiment fort les yaourts. Et quand il y a les moyens, bah en fait, et quand on se rend compte qu'ils baissent les budgets, bon bah on arrête de manger des yaourts et on les laisse aux personnes âgées parce que c'est pas cool, mais enfin, c'est des petites choses comme ça, quoi.
Cette problématique-là de quand est-ce que ça touche aux personnes aussi qu'on accompagne. Et puis, nous, le rectorat, il nous file pas de budget yaourt. Et donc, juste ce genre. Enfin, il y a un peu un truc aussi dans certains services publics où en fait, on s'en fout. Enfin, notre direction, le rectorat et compagnie, s'en fout de ce que tu fais réellement. Enfin, même, ils remplacent pas les profs quand les profs sont absents. Enfin, donc, il y a un peu le truc de toi, si tu veux prendre plus de temps avec les élèves, c'est très bien, mais derrière, tout le monde s'en fout, quoi. Il y a plein d'académies, mais où les profs sont pas remplacés pendant 6 mois, etc. Et juste, je pense que le rectorat est content de faire des économies et de dire on trouve personne, quoi. Mais du coup, enfin, quand t'es là-dedans, comment tu choisis aussi qui t'embête? Après, peut-être, tu vois, les militantes Tanar qui étaient instites, je pense qu'elles se disaient, par le contenu de mon enseignement, je vais transmettre d'autres valeurs, je vais faire d'autres choses et tout. Mais du coup, c'est une forme de sabotage qui est vachement moins visible que, enfin, mais en même temps, le sabotage est hyper secret, c'est ce que tu disais aussi, Victor, mais qui se pense de façon tellement discrète. Enfin, c'est dur de se dire en interne au sein de ces institutions là quoi. Et en même temps, c'est un peu l'ambiguïté qu'on a vis-à-vis des services publics, c'est qu'à la fois c'est l'État et à la fois on sait qu'elles sont là aussi pour discipliner, etc. Et en même temps t'y es aussi pour servir un public, quoi.
Si des gens n'ont pas utilisé le terme de désobéissance civile, mais plutôt de sabotage, je me dis, quel est l'enjeu derrière? Et de fait, la désobéissance civile, on voit que c'est beaucoup plus lié à une résistance spirituelle, à une résistance aussi qui n'est pas anti-étatique. Dans le sabotage, il y a quelque chose d'anti-étatique. Il y a quelque chose de dire, c'est tant mort, ou c'est tant vivant, c'est tant vivant de bavardage, mais si on est en mort pour le capital, ou même des temps qui portent préjudice à du public, dans le cadre des fonctionnaires, eh bien, c'est un temps pour commencer à s'organiser. Donc déjà, la réponse est que on a soulagé un peu de peine de travail. C'est un temps pour commencer à s'organiser collectivement, pour former une espèce d'institution anti-étatique, en tout cas pour lancer un mouvement en dessous de la mainmise de l'État. Et maintenant, dans les revendications, par exemple, ceux qui disent « nous, on fait de la désobéissance civile parce qu'on refuse d'enseigner ou de faire chanter la Marseillaise, j'en sais rien quoi, ou une minute de silence qui nous convient pas parce que c'est en mémoire de une qui quoi, enfin bon, j'en sais rien ». Dire « c'est une désobéissance civile », souvent, c'est dire « je reconnais l'État dans sa légitimité ». Je reconnais l'État comme service de bien public. Ça, c'est souvent ce qui est utilisé dans le cadre des revendications de désobéissance civile. Les gens qui pratiquent, qui utilisent, qui revendiquent le terme sabotage, disent « nous, on reconnaît pas l'État comme un organisme, comme une institution qui pour le service public. Pourquoi ? Parce que l'État, en fait, il a toujours servi à une chose, c'est à faire les guerres et à développer une économie de maintien de la sécurité sur un territoire donné, etc. Le discours anarchiste classique. Et donc, l'idée du sabotage, dans les faits, c'est souvent des gens qui sont beaucoup plus anti-étatiques. Et c'est pour ça que le moment où le sabotage prend le plus d'ampleur, d'épaisseur définitionnelle, de définition, c'est contre la guerre, c'est l'antimilitarisme. L'antimilitarisme, c'est vraiment le sabotage par excellence. Pourquoi ? Parce qu'on va s'y attaquer non pas à l'outil de production, mais on s'y attaque à l'outil de production, mais en particulier à l'outil de production étatique par définition, qui est l'armement. on peut dire oui, mais c'est une définition caricaturale de l'État. En fait, on peut. En tout cas, les gens qui pratiquaient le sabotage et qui aujourd'hui utilisent le terme, c'est leur discours.
Le geste individuel, il peut être fait parce que tu donnais d'autres exemples d'actions anarchistes ou revendiquées comme anarchistes, comme les tout ce qui était cambriolage, ce genre de choses. Je pense qu'il y avait, enfin, en tout cas, ça a été instrumentalisé. Avec tout autour de cette ambivalence, quoi, de savoir où est-ce que s'arrête l'intérêt personnel et où est-ce que commence le geste politique. On peut jamais vraiment, enfin, il n'y a pas un moment clair, un curseur précis.
Ça va dépendre aussi de tout, du type de situation professionnelle dans laquelle on se trouve, et ça va dépendre aussi si la personne qui sabote individuellement va faire reposer ce qu'elle ne fait pas sur comme charge sur ses collègues ou pas. C'est là que soit peut y avoir un rapport de mécontentement, de défiance de la part des collègues, ou alors de se dire mais il a raison et on va faire pareil.
Moi, je pense pas qu'on puisse généraliser, dire ceux qui sabotent c'est forcément des mauvais collègues. Moi, j'ai une expérience en tant que travailleur. J'ai été vague-maître. Donc vague-maître dans la fonction publique, c'est ceux qui livrent le courrier entre différentes sites. Et j'étais vague-maître du rectorat de l'Académie de Lyon. Et donc il y a deux locaux, il y a un local vers la Croix-Rouge, un autre pardon dans le 7e arrondissement. Et donc je livrais avec la camionnette les sujets de bac, les machins, des ordinateurs, enfin voilà. Et je faisais ça en remplacement d'un gars quand il prenait ses congés. Et il m'a formé, et quand il m'a formé, il me dit, alors surtout, quand tu reviens à la centrale, quoi, et que tu as fait ta livraison, tu prends ton café, et tu prends ton temps, tu lis un bouquin. Parce que sinon, moi, ils vont capter que je le fais. Donc, en fait, il y a une espèce de transmission du sabotage. Et moi, j'étais là, je disais, bah ouais, c'est cool. De toute manière, j'attendais pas que tu me le dises pour le faire, je t'aurais aidé. Et qui va vers la, voilà, de défiance vis-à-vis d'un travail qui est pas forcément voulu, qui ne répond pas à nos besoins. Mais la définition de Pouget, c'est à mauvaise paye, mauvais travail. Donc, mauvais travail, c'est à la fois qualitatif et quantitatif. Travailler moins, travailler mal.
Ça se trouve, enfin, j'en sais rien dans ce cas-là, mais il y a peut-être des gens qui trouvaient, ah bah oui, mais du coup le courrier il arrive trop tard, et du coup pour d'autres, non mais c'est juste pour rebondir sur l'exemple de mon voisin, de dire que en fait, comment dire, il y a peut-être des gens qui vont trouver que, ah bah oui, du coup, comme tout ça, ça traîne un peu, eh ben c'est pas vraiment un bon collègue, enfin en fait on peut toujours être le mauvais collègue de quelqu'un, c'est plutôt ça que je voulais dire.
C'est comme quand il y a des grèves à la SNCF, le fameux prix d'otage, etc. Il y aura toujours un moment où des gens vont se sentir lésés, oui. C'est toujours un minimum, peut-être. Mais il y a des gens, effectivement, qui veulent travailler. Il y a des patrons. Mais à un moment, il faut dire, oui, ça, c'est des ennemis. Après, je ne dis pas que c'est des ennemis pour tous les gens, les usagers de la SNCF. Mais tenir ce discours de légitimation du travail, de dévalorisation des militants en permanence, c'est un discours qui mine et qui sape complètement la lutte, et c'est pour ça que il y aura toujours chercher qui on va déranger, c'est un petit peu commencer à penser comme l'ennemi entre guillemets qui dit en fait vous nous dérangez tout le temps.
Moi, je voulais pas chercher qui on dérange.
J'entends bien, mais du coup, c'est une réponse à la, c'est une manière de ne pas répondre à la question. C'est une manière de dire, bah ouais, on va déranger des gens, c'est sûr, mais c'est des gens qui nous intéressent pas. Pour aller vite.
Quel serait notre comportement si on voyait le plombier intervenir chez nous, faire pareil et prendre des pauses et se mettre à faire son casse-croûte, manger et nous facturer son temps de pause sur les frais d'intervention? Est-ce qu'on aurait le même avis en disant « t'as raison mon gars, profites-en » ? À quel moment on va savoir faire la part des choses en disant « est-ce que si on me fait ce genre de pénalisation quand on vient travailler pour moi, qui n'est pas beaucoup de budget, est-ce que je vais finalement le trouver, trouver son comportement idéal ? Pouget, qu'est-ce qu'il en dit là ?
Pouget, il répondrait, si le plombier il fait des travaux dans un hôtel particulier parisien, en plein centre de l'île de la Cité, j'en sais rien, où c'est le plus cher, il dirait on s'en fout de ce qu'il dit le gars, il le facture. Si maintenant il fait ça, l'ouvrier en périphérie de Lyon, en banlieue ou je ne sais où, dans un habitat précaire ou quoi, ben l'ouvrier se trompe s'il surfacture. L'idée c'est au contraire de là pour le coup de.
Ah, il fait la part des choses, l'ouvrier.
Normalement il est oui.
Pour les saboteurs, l'enjeu c'est de reprendre le pouvoir. De reprendre de la liberté, de reprendre de la dignité, point. C'est tout ce qui peut contribuer à recréer ces choses-là, puis recréer du lien aussi, finalement. Et faire les choses dans un autre ordre que celui qui vient d'en haut, quoi, tout simplement. C'est une manière d'inverser le champ, d'inverser la direction, tout simplement. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, puisqu'on est parti de définition au départ. Finalement, je trouve qu'on peut la préciser maintenant.
À partir du moment où la lutte, elle mène une action comme ça pour reprendre du pouvoir, tenir une rue, voilà, c'est déjà une action de réussie et de mener, qu'on peut. Apparentée à du sabotage à partir du moment où elle fait obstruction.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de. Ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho d'Igarig à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
À la société capitaliste et étatique.